putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie?
C'est le canut info. Ah,
bah, mais, je sais pas.
Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis Macrestan 2.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut des papiers, ton permis, contre le volémi et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça te saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille l'info.
Canu 102.2. Canu info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
C'est 102.2, la radio plus ribelle.
Paniquez pas, niquez tout. Canu info du vendredi.
Bonsoir.
Alors, ce soir, on va vous parler de Vaux-en-Velin, où 96 logements ont été privés d'eau chaude après une coupure volontaire d'Engie.
Ni patrie, ni patron, ni Le Pen, ni Macron. Un rassemblement, puis manif sauvage à Lyon.
Le monstre s'est réveillé à Cré lors du carnaval, et on vous passera un petit reportage pour vous expliquer tout ça.
Et puis on passera à la rubrique nationale avec une mobilisation pour qu'il y ait des pilules sans ordonnance.
En national encore, près d'Orléans, les opposants au béton remportent la victoire sur Décathlon.
Après, il y aura un peu de musique.
Et puis on vous expliquera qu'à Bure, les anti-nucléaires du Bois-le-Juc sont aujourd'hui expulsables.
Et puis sauf si vous vivez dans une grotte, vous auriez remarqué que c'est les présidentielles et donc on parlera de l'importance corps du Front National dans les casernes de gendarmes.
Et bien sûr, pour finir, l'agenda.
Un super jingle féministe.
Et voilà. Et puis ça va être super. Et on vous quittera en musique comme la semaine dernière. Et c'est parti pour ce Canu Info du vendredi.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus.
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Allez, viens, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et
non,
vous
il s'agit de la
en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
Et première information dans la rubrique locale. À Vaux-en-Velin, la semaine dernière, 96 logements ont été privés d'eau chaude après une coupure volontaire d'Engie Réseau. La coupure aura duré 3 jours mardi matin. La semaine dernière, Engie Réseau, responsable du réseau de chauffage urbain de Vaux, a coupé l'alimentation de 3 immeubles du Mas du Taureau. Reliés au réseau de chauffage urbain, ces 96 logements copropriétés n'avaient plus de chauffage ni d'eau chaude. Une mesure radicale et rarissime. Le fournisseur qualifie en effet cette coupure de très exceptionnelle. Au cœur du problème, un conflit entre Engie Réseau et la régie Delastre Immobilier, qui donc est responsable des logements, autour de factures impayées pour un montant de 77 000 euros. Après des négociations auxquelles participait la mairie, le chauffage et l'eau chaude ont été rétablis vendredi dernier vers 17h. En attendant, et d'autant plus que le conflit concernait la régie et non directement les habitants, il n'y a une fois de plus qu'aux familles les plus fragiles et les plus pauvres qu'une multinationale peut imposer un tel traitement qui met en danger leur santé et leur hygiène.
Hier, il y a eu une mobilisation sur le mot d'ordre « Ni patrie, ni patron, ni Le Pen, ni Macron » qui a été lancée à l'appel d'un collectif dans plusieurs villes de France. Donc à Rennes, ou ville d'où est parti l'appel, à l'initiative d'étudiants, il y avait environ 1000 personnes. À Lyon, les slogans « Ah, anti-capitaliste » et d'autres « Pas de fachos dans les quartiers, pas de quartier pour les fachos » sont scandés par les personnes réunies sur la place des Terreaux depuis 18h. La foule, malgré la pluie, grossit au fil du temps pour atteindre environ 500 personnes. Vers 19h, une manif sauvage s'élance vers les pentes de la Croix-Rousse. On brandit des pancartes, on chante, on crie « F comme fasciste, N comme nazi, Abat, le Front National !» Et ni patrie, ni patron, ni Marine, ni Macron. Les slogans sont repris par petits groupes en plusieurs vagues dans les rues. L'ambiance est plutôt bon enfant. Une demi-heure plus tard, quai Saint-Vincent, ça se bouscule un peu plus. Les manifestants en tête de cortège veulent rejoindre le vieux Lyon que les groupuscules d'extrême droite considèrent comme leur fief. La police bloque le quai et la passerelle Saint-Vincent qui permet de traverser le Rhône, la Saône. Les slogans changent. Tout le monde déteste la police, crient des manifestants, certains ont visage masqué. Des projectiles sont lancés en direction des forces de l'ordre et la police riposte avec des gaz lacrymo. Et là, ça devient la course. Au fil des rues jusqu'au terreau, les forces de l'ordre scindent ce qui reste de la manif en petits groupes à coups de lacrymo et de charges sporadiques. Les derniers groupes sont dispersés au Cordelier, puis de l'autre côté du Rhône vers la préfecture. On compte au moins 4 interpellations, essentiellement pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre et des dégradations de biens publics. Et alors, dimanche dernier, il y avait déjà eu une première manifestation. Suite aux résultats du premier tour, et il y avait un peu moins de personnes, il y en avait juste une quarantaine, qui avaient commencé à manifester du coup dans les pentes de la Croix-Rousse jusqu'à ce qu'elles rencontrent les équipes de la BAC et qu'elles soient accueillies avec des lacrymos et des grenades de désencerclement. Donc il y a eu au moins 5 personnes blessées et a priori une interpellation jusqu'à ce que les manifestants donc, se séparent, mais la soirée donc, n'était pas terminée puisque les flics sont partis place Guichard pour encercler la place où il y avait un rassemblement de nuit debout en pensant que les manifestants des pentes rejoindraient cette place-là. Et place Mazagran, il y a eu encore aussi des attaques en fait, des identitaires cette fois-ci sur en fait, des jeunes qui justement avaient quitté la place Guichard à cause des flics et qui voulaient continuer la soirée tranquille. Et je vais vous lire un petit témoignage d'une personne qui était là. On était une vingtaine à se rassembler pour parler de notre déception aux élections. Au départ, on était place Guichard, puis on a bougé place Mazagran. On buvait des coups tranquilles, en mode entre potes. Et ils sont arrivés à 20-25, avec casque de moto, bouteille en verre, barre de fer, etc. On s'est enfui et ils nous ont canardés. Un de mes potes s'est fait défoncer le crâne, ils l'ont tapé assis sur le sol. D'autres se sont pris des jets de bouteille. Alors là, il y a eu au moins 2 personnes qui sont passées par les urgences, dont un, il a eu 8 agrafes derrière le crâne et de multiples contusions, ainsi que 5 jours d'ITT. Alors, d'autres mobilisations sont à prévoir, notamment le 1er mai, et le traditionnel défilé partira à 10h30 de la place Jean Massé en direction de Bellecour. Et donc le mot d'ordre, c'est « Pas une voix pour le FN ».
Pas une voix pour le FN. Alors un petit commentaire quand même sur ce slogan ni patrie ni patron, ni Le Pen ni Macron. Faudrait quand même pas oublier que c'est pas Macron les patrons et Le Pen la patrie, mais qu'ils sont tous les deux pour le capitalisme et pour le nationalisme. Mais du coup, tout de suite dans la rubrique locale, on file à Cré. Alors Cré, c'est dans la Drôme, pas très loin d'ici. Et là-bas, après 8 années de disette et de mise au placard, le carnaval de Cré et son monstre se sont réveillés le 8 avril dernier et ont envahi, colorisé, sonorisé et chamboulé les rues de Cré, peu habituées à tant de spontanéité, d'expression libre et de folie. Une renaissance auto-organisée et libre qui a rassemblé près de 500 personnes, qui s'est terminée par le procès de René-Victor Scolopendre, Hervé pour les intimes, dit le mille-pattes. On vous passe tout de suite un petit reportage qu'on allait piquer sur la page de Stefano sur Vimeo et que vous pouvez retrouver sur rebellion.info.
« cynisme nous emporte, que notre folie se répande,
qu'elle lui traîne le coudre. Ne laissons pas la rue indemne de nos joies, qu'elle rayonne au-delà du jour, au-delà de la nuit, qu'elle soit marquée de notre passage et que nos retrouvailles imprègnent le sol et ses interstices sans relâche.
Sans relâche.
Après 22 ans de bons et loyaux services, le carnaval qui était organisé par 3 structures, dont 2 qui se sont fait virer de Créé entre-temps, cet événement a été étouffé. Depuis 8 ans, il n'y avait plus de carnaval et plus vraiment de fêtes populaires, en tout cas de ce que moi j'en ai vu dans les rues de Créé, à part la fête médiévale, qui est quand même pas du tout populaire, avec le roi et la reine qui sortent déguisés dans la rue. Mais pas une fête du peuple.
Plaît bien l'idée d'un carnaval non institutionnel, c'est que tu peux pas rester du coup vraiment spectateur de cet événement. Soit tu décides de rentrer dans la fête et du coup tu décides de rentrer dans cette folie qui est collective et où les frontières même entre le véritablement légal ou illégal enfin en tout cas au niveau des lois est dépassé, puisqu'il y a un moment où collectivement on se retrouve à prendre la rue, à coller des affiches, à taguer des pattes de monstres au sol. Il y a un moment où il y a certains points, certaines lignes qui sont un petit peu bouleversées, mais ensemble, ce qui m'horripile dans ces carnavals institutionnels justement, c'est que t'as des barrières avec le défilé qui passe et les gens derrière leurs barrières et personne n'est sali, il y a des traces de rien nulle part. Et à la fin, quasiment, il y a la voiture pouette-pouette qui passe et qui nettoie tout, quoi. Tandis que là, encore, dans les rues, on voit que sont écrites sous les caméras. Ici, il ne s'est rien passé depuis 10 ans grâce à cette caméra. Donc là, j'ai encore vu une vieille dame aujourd'hui s'arrêter devant ce tag et le regarder. C'est que ça interloque et que ça continue à laisser des traces et que ça puisse continuer à questionner tout ça. Qu'on soit d'accord, qu'on soit pas d'accord, que ça nous ait bouleversé. Je crois qu'il y a personne qui en sort complètement indemne, du coup, quoi, dans tous les sens du terme. Et c'est le but aussi de ces événements, c'est qu'on ne puisse pas rentrer chez soi comme si rien ne s'était passé.
Ah, le carnaval était là, c'est sûr. Quand je me suis retournée à un moment dans la rue principale de Créé et que j'ai vu la rue remplie, j'y croyais pas mes yeux. Je crois que j'ai rarement vu en même temps une chorale révolutionnaire, une fanfare et une batucada jouer ensemble pendant que d'autres personnes étaient en train de s'envoyer de la farine. Et qu'en plus, le doigt était pointé, en tout cas les consciences étaient pointées sur ces fameuses caméras qui nous yotent. Et l'État qui habituellement nous observe, c'est peut-être un peu fait crever les yeux ce jour-là, et ça c'est une belle victoire.
Comme j'avais pas mal zoné, j'étais fatigué. J'aperçois une méchante tour. Je me dis, je vais m'arrêter. J'ai dit, hé, là-dedans, viens, tu viens, viens de moi. Je me sentais vraiment seul dans les rues de Créé. Quand soudain devant moi, une espèce de caméra vient braquer son objectif juste à la hauteur des tifs. Je me retournais aussi sec en disant qui c'est ce mec qui veut me mater le portrait sur fond de vieux grès. Je ne refile pas ma photo, un casque est trop marqué au même si c'est un obsédé. Des sales gueules au gré tiré, qui sait donc ce mec qui a l'air, qui veut me battre la gueule.
pas une donzelle en train de s'affûter les ailes.
Il y a plusieurs générations qui se sont retrouvées. Il n'y a plus de barrière, plus qu'une frontière. Et ça, c'est magique. Puisqu'on vit dans un cadre permanent, et ce cadre-là, ce jour-là, il est ce qu'on veut en faire. Ceux qui ont envie de se mettre des cadres, ils s'en mettent. Ceux qui n'ont plus envie de ces cadres-là, c'est fini. Et ceux qui vont dans quelque chose de plus radical, comme aller écrire des phrases sur des murs, ça peut être ma liberté s'arrête là où la liberté de quelqu'un d'autre commence. Et finalement, ce jour-là, bah oui, c'est permis, quoi.
Il y a une autre phrase qui dit qu'on ne pourra jamais être libre individuellement sans que tous les autres soient libres autour de nous. Et ce carnaval, c'est ça en fait pour moi, c'est qu'il y a un moment où en fait tu deviens libre parce que tout le monde autour de toi est libéré de son image, est libéré de sa folie, est libéré de tout ce qu'il est obligé de cacher, de tout ce qu'il est obligé de refouler en société, en vie normale. Parce que là tout d'un coup le fou devient roi, quoi, l'interdit devient possible. La folie devient contagieuse et c'était porté par tout le monde, vraiment, cet esprit de liberté, justement. Et du coup, j'ai rarement senti aussi libre de par le fait que tout le monde se sentait aussi libre autour de moi, ce qui n'aurait pas été possible, tout ça.
Une bouffée d'air et elle fait vraiment du bien. Et en fait, c'est cette forme collective de s'approprier l'espace public qui la donne, cette bouffée d'air. Et tout le monde l'a compris. Le gamin de 7 ans, autant que la personne qu'on a 90, là, quels que soient les événements, en fait, quelles que soient les mobilisations, il y aura toujours un prétexte pour nous casser du sucre sur le dos. Et puis, plus c'est dissident, plus c'est subversif, et plus certains diront que tout sera décrédibilisé. Mais au contraire, en fait. Plus c'est subversif et plus les gens qui ont le pouvoir, et ben, ils se sentent déséquilibrés, déstabilisés et c'est pour ça qu'ils mettent autant de hargne à répondre de cette façon, que ce soit dans les médias, que ce soit le maire, Mariton. Ils comprennent qu'ils n'ont plus le pouvoir et qu'ils vont tout faire pour pouvoir le récupérer. Mais c'est du vécu, donc un vécu, il ne s'enlève pas, il s'inscrit, voilà, il s'inscrit dans une histoire.
En ce jour du samedi 8 avril 2017, nous sommes réunis en place et lieu de Cray pour célébrer, pour condamner, pour juger, pour juger M. Scolapin.
Hervé, pour les intimes, dit le mille pattes.
Monsieur Hervé Scolopendre, vous êtes accusé de trouble au désordre public.
Ce qui est assez drôle, c'est qu'ils cherchent à catégoriser, à trouver des gens qui seraient apparemment des organisateurs, des groupes. Alors ils parlent de Nuit Debout, des associations, du Trans Express, etc. Mais en fait, ça leur est complètement intolérable que que ces personnes, en fait. Que ces personnes, qu'il n'y a pas une tête qui dépasse des autres, qu'il n'y a pas un porte-parole ou une porte-parole, qu'il n'y a pas un groupe qui revendique. Non, c'est quelque chose qui dépasse tout groupe et tout groupe d'individus, etc. C'est juste un événement que tout le monde a pu s'approprier sans lui donner justement sans donner la possibilité à des têtes de passer au-dessus et de dire c'est moi. Non, bah non, c'est personne, c'est le carnaval, c'est le monstre qui s'est enfin réveillé.
Et tout le monde s'est géré, 500 personnes dans les rues de Cray, sans force de l'ordre, sans cadre, sans manifestation déclarée. Pour moi, c'est une réussite. Ça prouve qu'on est capable de vivre ensemble dans la joie, la fête, la bonne humeur.
Ça crie, ça chante, ça hurle, ça fait péter des pétards, ça colorie les murs, ça vit, ça bouillonne, quoi. Et ça vaut tous les mots.
Le désir, ce serait que ça soit un peu tout le temps comme ça, qu'on puisse reprendre nos rues un peu tous les jours. C'est pour ça que la mairie n'est pas contente. C'est qu'elle se rend compte qu'en fait, c'est possible que les gens reprennent leur... non pas leurs droits, mais reprennent leur liberté. Et la liberté, ça fait peur.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale! Arrêtez un peu les conneries, là, non?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Libérer ma pilule. C'est le nom d'un collectif composé de professionnels de santé, du planning familial et de féministes qui a publié mardi une lettre ouverte et une pétition à l'adresse des laboratoires pharmaceutiques. Ce collectif demande la mise sur le marché d'une pilule contraceptive sans ordonnance. Ah ouh. L'objectif, c'est de permettre aux femmes, quel que soit leur âge, d'acheter leur pilule directement dans les pharmacies, sans prendre rendez-vous chez un médecin généraliste ou un gynécologue. C'est déjà une réalité dans de nombreux pays, notamment par exemple au Portugal, des pays en Amérique du Sud ou au Moyen-Orient aussi. Les pilules qui seraient concernées seraient seulement les pilules progestatives, non pas les pilules de 3e ou 4e génération qui sont composées, elles, à la fois d'œstrogènes et de progestatifs. Et du coup, elles nécessitent un suivi médical particulier puisqu'il y a des risques de thrombose, c'est-à-dire d'obstruction de vaisseaux sanguins. Alors qu'avec les pilules qui ont que de la progestérone, il n'y a pas ces risques-là. Du coup, ça serait pour garantir cet accès libre à la pilule progestative. Le collectif demande que les femmes elles puissent répondre à un questionnaire préétabli directement chez leur pharmacien qui pourrait déterminer si la patiente présente un risque ou pas. Ce collectif fait valoir qu'en 2012, le Collège américain des gynécologues obstétriciens recommandait déjà cette autorisation, puisque les femmes seraient capables d'évaluer elles-mêmes si l'utilisation de la pilule contraceptive est possible ou pas en répondant à ce questionnaire. Scientifiquement, la délivrance de la pilule ne nécessite pas d'examen intrusif et 5 ou 6 questions suffisent pour connaître les éventuelles contre-indications. C'est ce qui se passe déjà un peu quand on va en consultation au planning familial, par exemple, puisqu'il n'y a pas forcément d'examen gynécologique si on prescrit juste une pilule progestative. Les avantages de la pilule sans ordonnance, selon le collectif, ça serait déjà une plus grande autonomie des femmes. Ils dénoncent en effet la mise sous tutelle d'une partie de la population et disent que les femmes n'ont pas à être infantilisées en quémandant leur pilule chez le médecin ou en subissant un examen gynécologique tous les 6 mois, alors que finalement le frottis est indiqué que tous les 3 ans à partir de 25 ans. Aussi, ça pourrait permettre de réduire bien évidemment le nombre de grossesses non désirées si toutes les femmes avaient accès à une pilule sans forcément donc passer par un médecin parce qu'en plus aller chez un médecin et tout ça a un coût Et du coup, c'est ça aussi qu'elle dit, c'est que ça serait vachement plus accessible à toutes les femmes et notamment à celles qui vivent dans des régions assez touchées par la désertification médicale, puisque le maillage des pharmacies est plus resserré que celui des médecins. Du coup, c'est plus facile d'aller directement dans une pharmacie pour acheter sa pilule.
Et quand ça va bien, on ne veut pas aller chez le médecin, en fait.
Bah oui, et puis juste pour payer une consultation, pour avoir une ordonnance pour une pilule, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les moyens financiers et géographiques d'aller jusqu'à voir un médecin. Du coup, c'est ce que le collectif explique aussi, c'est qu'il est nécessaire de sortir de l'hypermédicalisation, notamment de la contraception, et que ça faciliterait son accès à toutes, y compris celles qui seraient dans des situations financières précaires ou éloignées géographiquement. Et notamment aussi pour les jeunes, les 18-25 ans, qui n'ont plus accès à la contraception gratuite, puisque c'est gratuit pour les mineurs, mais qu'à 18 ans, ça s'arrête. Mais qu'à 18 ans, d'un jour au lendemain, on n'a pas forcément les moyens de payer une consultation chez un médecin pour avoir une ordonnance pour la pilule. Alors quand même, ils disent qu'il y a quand même quelques précautions à prendre qui seraient autour d'une première prise pour des plus ou moins jeunes, mais que du coup ça nécessite quand même un peu des explications, qu'il y a aussi une nécessité de donner des informations sur les oublis de pilules, les éventuels saignements ou cycles qui seraient modifiés, tout ça. Enfin, du coup, ça, quand même, ça nécessite un peu des infos. Et l'autre interrogation un peu cruciale, et c'est ce pourquoi ils font cette lettre ouverte et cette pétition, ça serait parce que, en fait, les pilules sans ordonnance, est-ce qu'elles pourraient être remboursées par la Sécurité sociale, puisque l'assurance maladie ne rembourse pas aujourd'hui certains contraceptifs sans prescription. Ils ne remboursent que si on a une ordonnance. Et du coup, pour que les pilules soient vendues sans ordonnance, il faut que les laboratoires pharmaceutiques en fassent la demande auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Donc c'est pour ça que ce collectif fait cette lettre ouverte et cette pétition qu'ils adressent directement aux laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir avoir accès à ces pilules sans ordonnance. Donc affaire à suivre puisque c'est paru mardi.
Alors maintenant on va parler d'Opposants au béton qui remporte une victoire sur Decathlon. Alors près d'Orléans, Decathlon voulait construire un centre commercial sur 16 hectares de terres agricoles et naturelles. Et après 4 années de lutte, les opposants ont obtenu un quasi-abandon officiel du projet. Le 31 janvier dernier, le tribunal administratif d'Orléans annulait l'arrêté préfectoral qui autorisait la destruction de 9 hectares de zones humides dans le projet du village Decathlon, prévu sur 16 hectares de terres agricoles et naturelles. Et sauf que, du coup, cet arrêté, c'est un document indispensable pour commencer l'aménagement. Et le promoteur avait 2 mois, soit jusqu'au 31 mars, pour faire appel de la décision, ce qu'il n'a pas fait. Donc les opposants, ils espèrent du coup, ils pensent être très proches d'un abandon officiel du projet, même si ils restent quand même assez vigilants. Alors après cet important revers, il reste à Decathlon plusieurs issues, soit trouver une dizaine d'hectares dans le secteur pour compenser la destruction de zones humides, qui est une option compliquée à réaliser selon les opposants, ou alors travailler à un projet de zone commerciale réduite afin de ne pas empiéter sur les 9 hectares à sauvegarder. Ce qui amputerait le projet de 60% de sa surface originelle, toujours selon les opposants. Ou alors, dernière option, ce serait abandonner. Alors, il aura fallu, pour l'emporter, plus de 4 années de rencontres avec les habitants, de rendez-vous houleux avec des élus municipaux favorables au projet et de chantiers agricoles. Mais c'est sur le plan juridique que la bataille aura remporté le plus de fruits. La Commission nationale d'aménagement commercial, la CNAC, a annulé par 2 fois le dossier Decathlon pointant l'artificialisation des espaces naturels, les risques de déséquilibre de l'offre commerciale, les impacts négatifs sur le trafic routier, la faiblesse du projet sur le plan architectural et dans sa contribution au développement durable. Et donc le village qui était prévu pour 2017, a priori il y a peu de chances qu'il voit le jour. Du coup, comme à Sivens ou ailleurs, la loi sur l'eau et la sauvegarde des zones humides aura donc eu raison des appétits voraces des promoteurs.
Et on espère bien que Decathlon va abandonner, pour le reste, on connaît leur adresse.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Dans la presse,
j'irai où tu restes,
j'irai où tu restes,
avec une lame dans ma veste,
une lame dans ma veste.
Une larme dans ma veste, chez toi je me poste, te piste, t'accoste, ensuite te moleste, te frappe, te brusque, tu flippes et tu masques la piste dans ton front qui est ta grippe à mes basques. Passe tous mes disques ou sinon je te confisque ces bijoux grotesques et les dents qu'il te reste. J'insiste, ajuste ma lame dans ton buste, ne fais plus un geste, ouais je sais c'est injuste. Tu pleures, t'es triste, qui parle de désastre? Quoi, qu'est-ce qu'il y a, ton parrain est ministre? Je m'en tape complètement, quand je veux je te dévaste avec ces grandes calottes que je t'administre. Putain d'opportuniste, quasi esclavagiste. Toi, t'es qui pour me rayer de la playlist? Tu disais comme ça que mon rap est néfaste. Tiens, prends ça, c'est lui qui t'en casse.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
Et à l'improviste, à ton taf, je m'incruste. Tu cries, tu résistes, mais trop tard, tu dégustes. Petit journaliste, mon cul, tu t'offusques. Mais je t'avais dit, quand je veux, je te débusque.
Eh oui.
T'as pris trop de risques en critiquant mes textes. Mon nom, mon crew, mon style, ma casse. T'as fait l'humoriste et maintenant, je te séquestre. Regarde quel contraste, t'as l'air moins enthousiaste. Ne fais pas l'autiste, car ceci n'est qu'un zeste. Un aperçu modeste des techniques que je teste. Depuis plusieurs mois, tu étais sur ma liste. Je t'ai laissé ta chance, allez, sois réaliste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
Hé, hey, toi l'artiste, viens, viens. Le grand, le robuste. Ouais. Oui, oui, toi là-bas, appuyé sur l'arbuste. Oh. Tu peux jouer les rustres, mais si tu persistes, je te blesse à l'aide de l'instrument de ton bassiste. On dit que tu pèses contre moi, me déteste, et raconte partout que je suis intégriste, parce que j'aime le rap de puristes qui empeste, non pas ton sale son fait avec des choristes. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Où t'as mis ton fils? Ça plus passe, et en plus, y'a ton corps qui se crispe, et puis tu rousses pète car tu prends une vraie rouste. Ne fais pas la tête si tu veux, fais mes boosts. Boost, glisse, oui, le monde est vaste. Ramasse ton pianiste et ton violeuse de rasta. Avant que je te délaisse de tes bagues, de ton poste, de ta veste, et te laisse en galère, garde l'est.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
J'ai ton nom, ton adresse.
Ton nom, ton adresse.
J'ai vu ta tête dans la presse.
Ta tête dans la presse.
J'irai où tu restes.
J'irai où tu restes.
Avec une lame dans ma veste.
Une lame dans ma veste.
En page, papy. Pas tester, hein, les plus détestés, hein, tu peux pas contester, en falche, en falche, cassé, ha.
On vient d'écouter Kazé, une lame dans ma veste. Elle parlait d'adresse et l'adresse à laquelle on va tout de suite, c'est Bure. Alors Bure, c'est un endroit dont on vous a longuement parlé, dans lequel il y a un fond, on vous en parle régulièrement avec des invités notamment qui viennent en parler. Et là, ce soir, la nouvelle n'est pas terrible, celle qui vient de Bure, puisque les antinucléaires du Bois-le-Juc sont expulsables dès aujourd'hui, enfin dès il y a deux jours. Mercredi 26 avril, le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, donc Bar-le-Duc c'est dans la Meuse, a rendu sa décision. Le Bois-le-Juc, occupé depuis 8 mois, est à nouveau expulsable sans délai. Située sur la commune meusienne de Mandre-en-Barrois, cette petite forêt occupe un rôle stratégique car elle doit accueillir dans ses sous-sols argileux les déchets nucléaires du projet CIGEO qui est porté par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, la fameuse ANDRA. Des opposants à ce projet de poubelle nucléaire occupent les bois depuis juillet 2016, construisant barricades et cabanes à plus de 25 mètres de hauteur. Et là, ils pourraient donc se retrouver délogés par les gendarmes dès maintenant. Lors de l'audience d'examen du litige, donc le 8 février 2017, l'ANDRA a en effet demandé l'expulsion de M. Sven Lindström, qui est le seul occupant identifié de la forêt en Lorraine, sachant que les occupants anonymes, eux, sont plusieurs dizaines. Et donc elle l'a demandé, l'ANDRA, au nom d'une atteinte manifeste aux droits de propriété, je cite, selon les dires de Maître Bourrel, qui est l'avocat de l'ANDRA. Or, cette propriété est remise en cause depuis que le tribunal administratif de Nancy a invalidé la cession du bois à l'ANDRA fin février 2017. L'expulsion est contestable et l'agence n'a rien à faire dans ce bois, puisqu'elle n'en est plus vraiment propriétaire, résume ainsi Maître Ambrosselli, qui défend les occupants. À la suite de la décision du tribunal, ni Maître Bourrel, ni l'ANDRA n'ont souhaité pour le moment s'exprimer. À la maison des résistances de Bure, les opposants se disent surpris par cette décision, mais sereins. L'un d'eux, Sylvestre, déclare « On ne s'attendait pas à ce que ça tombe maintenant, alors que la propriété du bois est contestée et en pleine élection présidentielle. » Il vit à la maison et le bois. « Mais en même temps, dit-il, on a déjà vécu une expulsion en juillet 2016, on est bien préparé, on est déterminé à défendre cette forêt coûte que coûte. » Des ateliers de formation pour se préparer à l'intervention des gendarmes, ainsi que la construction et le renforcement des cabanes, seront organisés dans les prochains jours. Les opposants, qui sont environ une cinquantaine pour le moment, ont reçu le soutien de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et attendent l'arrivée de militants amis. Un appel à des actions décentralisées a également été lancé, c'est valable pour Lyon, n'est-ce pas ? Et une manifestation de réoccupation est d'ores et déjà prévue dans les 15 jours qui suivront l'expulsion. Les informations, on vous les passera sur Scanu Info. Cela pourrait raviver la lutte, relancer le mouvement, observe Étienne Ambroselli, donc c'est l'avocat des occupants. Ce n'est ni une défaite, ni une fin, disent les occupants du bois. Il s'agit simplement d'une nouvelle étape dans la lutte qui s'enracine par ailleurs. Il y a les occupations légales à travers des achats de maisons et des remises en culture de champs. Il y a un sens politique à cette expulsion, estime ainsi Sylvestre. Si elle intervient d'ici début mai, elle va laisser une trace indélébile sur la fin de la mandature anti-écolo de Hollande. Sinon, le prochain président va commencer son mandat avec un conflit larvé contre les écologistes et une lutte potentiellement violente. Et Maître Ambroselli, donc leur défenseur, rappelle que Benoît Hamon, et donc le Parti Socialiste, s'est prononcé contre le projet de Bure pendant la campagne électorale. En avril 2015, un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, avait quant à lui soutenu un amendement favorisant l'ouverture du projet CIGEO. Le Bois-le-Duc est le symbole d'un choix de société, ainsi Sylvestre, le tout nucléaire contre la défense des biens communs que sont la forêt, les terres agricoles. Dans ce contexte, la mobilisation prévue le mardi 2 mai à Bar-le-Duc en soutien au paysan Jean-Pierre Simon, jugé pour avoir soutenu l'occupation du Bois-le-Duc, en mettant à sa disposition des occupants un tracteur et une bétaillère, prendra certainement un nouveau sens. On vous reparlera sans doute de ce procès. De toute façon, on risque de vous reparler de Bure fort prochainement sur Canu Info. Alors, restez à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Canu Info, vendredi.
Tu vois la grosse crotte avec du caviar, du caviar, des crottes de... La président.
Ocean.
Rubrique présidentielle.
Bah parce que souvent nous critiquons, nous on connaît pas bien, on connaît pas bien, mais les présidents c'est une espèce introduite il y a pas longtemps. Hein. C'est récent ce truc là. Avant il y en avait quasiment nulle part, maintenant t'en votes partout, t'as partout dans le monde ces trucs.
Et puis ça fait des ravages là, c'est pas que ça se reproduit sans arrêt. Nous chez nous c'est tous les 5 ans qu'il y en a qui apparaissent, ça détruit tout plein de formes de vie et tout, c'est vraiment de la merde.
Ouais mais moi je m'aime pauvre, la foutre nous des présidents, la vieille carte des présidents ou laisse à manger à nos chats, ça
mange. Vas-y mange les chiens, mange les présidents.
Mange, bouffe tout,
ouais.
Bien.
Canu Info vendredi, rubrique présidentielle.
Et oui, on n'en a rien à foutre des présidents, et en même temps, les présidentielles, on fait quand même difficilement passer à côté. Alors là, on va vous parler du score très important que fait le Front National dans les casernes de gendarmes. Le résultat du premier tour de l'élection présidentielle montre une nouvelle fois l'attachement des gendarmes au vote Front National. Des contributeurs de Paris 8 Info ont ainsi produit une analyse non exhaustive des résultats du scrutin de quelques casernes de gendarmes mobiles et gardes républicains. Au gré de multiples études, l'adhésion électorale des gendarmes envers le FN ne fait guère plus de doute. Sur Paris 8 Info, l'analyse des scrutins du premier tour des élections régionales de décembre 2015 avait également fait observer cette tendance. Le premier tour de l'élection présidentielle ne déroge pas à la règle, les gendarmes votent bien davantage Marine Le Pen que le citoyen lambda.
Avant d'expliciter l'analyse des scrutins, il est judicieux de refaire un point méthodologique. Contrairement au CRS, les gendarmes mobiles résident avec leur famille dans les locaux de la caserne. La concentration de ces effectifs gendarmiques offre ainsi une possibilité de pouvoir évaluer la réalité du vote en étudiant le bureau de vote qui leur est attribué lors d'une élection. Néanmoins, et à part de rares exceptions, le bureau de vote n'est pas lié exclusivement à une caserne, mais englobe plus largement les habitations des alentours et donc l'ensemble d'un quartier, dont la caserne. Le résultat du bureau de vote lié à une caserne se dilue donc avec celui des populations civiles classiques. Il ne s'agit donc pas ici de sondage ou d'estimation, mais bien d'une étude mathématique des bureaux de vote rattachés aux casernes.
Alors on commence un premier bureau de vote, c'est à Versailles que se trouve le plus important contingent de gendarmes mobiles franciliens. Ces gendarmes habitent à la caserne de Satory et est composé de 7 escadrons de gendarmerie mobile. Ce camp militaire est relativement exceptionnel car il est rattaché à un bureau de vote où seuls les gendarmes et leurs familles respectives sont inscrits sur la liste électorale. C'est le bureau de vote numéro 10 de Versailles. Dimanche dernier, 48,27% y ont voté Le Pen, contre 9,8% pour l'ensemble de la ville. Les gendarmes ont ainsi voté près de 5 fois plus pour le FN que la population versaillaise totale.
Dans la préfecture des Hauts-de-Seine, à Nanterre, se trouve une caserne de gardes républicains. Ils votent dans le bureau numéro 14 et sont 35,16% à avoir accordé leur confiance à Le Pen contre 10,43% à la chaîne municipale, soit 3,5 fois plus que l'ensemble de la ville.
À Paris, le bureau numéro 46 du 13e arrondissement correspond aux habitations du boulevard Kellermann dont dépend la caserne des gardes républicains et de leurs familles. L'analyse du scrutin doit prendre en compte cette dilution importante avec les populations dites classiques. Malgré ce mélange, Le Pen obtient près de 16,52% des voix, soit un score de 2,5 fois plus élevé que l'ensemble de l'arrondissement.
Alors même si cette étude francilienne n'est pas totalement exhaustive, cette sélection relativement importante, donc l'article de Paris Lutte Info donne d'autres exemples, ceci démontre une nouvelle fois la proximité idéologique entre les tenants de la matraque et le parti d'extrême droite du Front National.
Oui, et les auteurs de l'article de Paris Info ont également étudié d'autres bureaux de vote à proximité d'une caserne de gendarmes mobiles ailleurs qu'en région parisienne. Là encore, le constat est tout à fait saisissant. À Orléans, le bureau de vote qui abrite la gendarmerie a voté plus de 2 fois plus pour Le Pen que le reste de la ville. La proportion est la même à Annecy et encore plus élevée à Grenoble puisque le score de Marine Le Pen dans le bureau de vote qui compte la gendarmerie est 3 fois supérieur à celui de la ville.
À Lyon, le bureau de vote qui contient la gendarmerie du 2e arrondissement, c'est-à-dire pas seulement des gendarmes mobiles, et a voté pour Le Pen à 19% contre 8,9% à l'échelle de la ville. Là encore, malgré la dilution, le vote est 2 fois supérieur à la moyenne de la ville.
Ainsi, l'étude des résultats électoraux détaillés des villes où résident des escadrons de gendarmerie mobile montre une augmentation du score FN dans le bureau de vote correspondant à leur caserne. Malgré cette dilution, donc, avec les populations avoisinantes du quartier, le score n'en reste pas moins élevé et se retrouve quasiment systématiquement supérieur à celle de l'échelle municipale. La comparaison avec le score de l'ensemble de la ville permet de constater un pic de vote FN, entre guillemets, anormalement élevé dans un bureau rattaché à une caserne de gendarmerie mobile. De toute évidence, si l'on pouvait connaître uniquement les votes des gendarmes, c'est-à-dire sans prendre en compte les populations civiles partageant le même bureau de vote, le score du FN apparaîtrait encore plus élevé, comme l'illustre le cas exceptionnel du bureau de vote numéro 10 de Versailles.
Affirmer la proximité idéologique des gendarmes mobiles avec le Front National n'est en aucun cas un fantasme gauchiste, entre guillemets aussi. Leurs idées sont bel et bien de la même couleur que leur tenue de maintien de l'ordre, bleu marine, CQFD.
Alors bien sûr, un petit commentaire, cette succincte analyse ne cherche pas à sous-entendre qu'un gendarme mobile qui n'aurait pas voté pour Le Pen est un gentil flic ou un gendarme respectable. Il s'agit uniquement ici d'essayer de démontrer par A plus B que le gendarme est bien souvent un électeur d'extrême droite. Peu importe sa préférence électorale, on rappelle qu'un gendarme reste un tenant de l'ordre établi. Et tout de suite, on passe à la rubrique féministe.
L'invisible est disponible, libre et irréductible.
Canu, info.
L'invisible est disponible, libre et irréductible.
Actu féministe.
Les hommes fiers et féministes et solidaires.
Canu Info du vendredi. Alors, après le 1er mai, où les féministes seront bien entendu dans la rue aussi, le 5 mai à Saint-Étienne, c'est un peu un agenda féministe en fait que je vous fais. Le 5 mai à Saint-Étienne, au 17, ça s'appelle, c'est 17 rue de la Mulatière. Ce sera à prix libre, c'est à partir de 18h, il y a bouffe, et à 19h30, projection d'un film dont je ne peux même pas vous dire le nom parce que j'ai oublié de le noter. Et ça sera en soutien au Femcis Fest. Et le Femcis Fest, c'est un festival de hip-hop qui choisit de proposer sa scène aux artistes meufs en priorité. Et du coup, c'est un festival qui a lieu tous les ans à Saint-Étienne. Et donc là, ça sera la soirée de soutien pour qu'elle puisse continuer à organiser ce festival. Ensuite, le lendemain, le 6 mai, ça sera au Bienvenue à partir de 21h à prix libre aussi. C'est cabaret rail des années 70 plus DJ. Il y aura un buffet, un bar et une boum, donc après avec les DJ. Et cette soirée, elle sera en soutien et à la caisse du collectif des sans-papiers et au CRAP. Et le CRAP, c'est le collectif Réflexion, Analyse et Action Post-Coloniale. Et ensuite...
Alors le bienvenu, c'est à Lyon. Hein.
Le bienvenu, pardon, c'est complètement à Lyon. C'est à la rue
Gratte-Ciel. Même à Villeurbanne.
Ah, c'est à Villeurbanne, ouais. C'est et c'est Gratte-Ciel, hein, c'est ça ?
Ouais, rue des Bienvenus.
Rue des Bienvenus. Voilà, merci pour ces précisions. Et puis après, on va direction en Isère, à Roibon. Ça sera le week-end du 15 et 16 mai. C'est le Welly Welly Want qui organise un atelier sur tout le week-end sur le consentement en mixité. Et c'est à la Trappe, c'est donc un lieu à Roibon. Il faut s'inscrire et du coup il y a plus d'infos sur internet, je pense en cherchant sur le Welly Welly Want ou les ateliers sur le consentement, je pense que ça se trouve parce que du coup il faut s'inscrire. Voilà, c'était l'agenda féministe.
Et tout de suite on passe à l'agenda classique, entre guillemets. C'est tout à fait bizarre. Ah non, on passe de la musique avant. Chantait Nice dans les années 80.
Et il est 19h49, vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est toujours le Canu Info du vendredi, puisqu'on est toujours vendredi, on n'a jamais été aussi autant à l'avance, c'est Noise Pollution qui va être content, et c'est l'heure de l'agenda.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Alors nous, on va vous annoncer des choses un peu plus réjouissantes. Alors, jeudi 4 mai, à Terre des Livres, la librairie qui se trouve au 86 rue de Marseille, à Lyon 7, il y aura une invitée qui est Laurence Decoq et qui va nous parler de son livre « Panique identitaire, l'identité au prisme des sciences sociales ». Alors que la crise sociale et politique, engendrée par des décennies de politiques libérales agressives, s'approfondit et se manifeste par des inégalités sans cesse croissantes, les questions identitaires ont tendu ces dernières années à être instituées dans la sphère médiatique, parmi certains intellectuels et dans le discours de droite et ou de socialistes comme centrale, au détriment des clivages de classe ou de la lutte contre les inégalités de classe, de race, de genre. Alors cet ouvrage y propose une analyse des paniques identitaires, entre guillemets, qui ont récemment fait la une des médias dominants, comme par exemple l'affaire du burkini, les cafés interdits aux femmes, mais aussi les polémiques autour de la composition de l'équipe de France de football, de l'enseignement de l'histoire ou de la théorie du genre, encore entre guillemets, des menus dans les cantines scolaires, etc., etc. En les resituant dans le contexte politique et intellectuel de ces dernières années et dans les évolutions historiques de la construction des figures de l'altérité. Alors, je crois que je ne vous ai pas dit, donc c'est à 19h le jeudi 4 mai.
Les Terre des Livres de Marseille.
Le même jour, jeudi 4 mai, il y a une projection de L'intérêt général et moi, qui est en fait un documentaire ciné-débat-repas contre l'A45, donc organisé par l'atelier vélo du Chat-Perché, La 45 est donc un projet de seconde autoroute entre Lyon et Saint-Étienne, parallèle à la 47, existante et traversant les coteaux du Lyonnais et du Jarez. Ce projet, financé principalement par de l'argent public, à hauteur d'environ 850 millions d'euros, au profit de Vinci, ne répond ni aux enjeux de transport pour les habitants, habitantes, ni évidemment à ceux d'une transition vers une mobilité juste et soutenable. Détruisant des centaines d'hectares de terres agricoles de proximité et amenant un nouveau flot de voitures et de pollution vers nos villes, l'information autour de la 45 doit circuler, en effet, et la mobilisation doit s'amplifier, en effet, même si on va faire beaucoup de soirées à Saint-Étienne comme des soirées féministes, on n'a peut-être pas besoin d'une autre autoroute, on peut aussi aller à vélo. Bref, voilà, donc cette soirée, c'est jeudi 4 mai à 20h, une projection de film, un repas organisé par l'atelier du Chat Perché, 29 rue Salomon Reynac, à Lyon 7e, participation libre, reversée au film et à la lutte. Et donc voilà, ils sont très accueillants et ils mettront certainement des tabourets, des chaises, comme ils disent, pour notre bienvenue. Le même jour, tout se passe le jeudi 4 mai. En effet, le jeudi 4 mai, il y a aussi une manifestation et une grève prévue, organisée, enfin en tout cas... un préavis de grève posé par les agents de la ville de Lyon. On aimerait évidemment que la grève soit nationale, mais je ne sais pas si les préavis ont été posés. En tout cas, les agents de la ville de Lyon seront devant l'hôtel de ville entre midi et 14h ce jour-là. Et bien évidemment, on aimerait que notre cher maire nous fasse coucou, mais on en doute car il doit être certainement très occupé en ce moment. Voilà, bon, bah, jeudi 4 mai, il se passe beaucoup de choses en tout cas. Et avant, après, bah, on espère aussi. À bientôt.
Et d'ici là, il y a aussi le 1er mai.
Le 1er mai, c'est quand même la journée internationale du droit des travailleurs et non pas la journée du travail. Il n'y a pas très longtemps sur une grande marque qui vend des fleurs qui disait c'est la journée du muguet. Non, c'est la journée internationale du droit des travailleurs. À Lyon, évidemment, il y a une manifestation qui part à 10h30 de Jean Massé. Et cette manifestation, vous trouverez différents mots d'ordre d'appel. Il y a beaucoup de raisons de s'y rendre, je crois, actuellement. En tout cas, après cette manifestation, il y a une radio que vous êtes en train d'écouter exactement maintenant, qui s'appelle Radio Canu, qui organise traditionnellement, après la manifestation le 1er mai, un repas de quartier, place Satonnet. Et alors, il y a un superbe appel qui circule. Oyez, grévistes, activistes et trapézistes, Radio Canu vous invite à son traditionnel punch du 1er mai. C'est lundi, après la manifestation, en gros à partir de midi et demi, place Satonnet. Le 1er mai, le traditionnel punch de Radio Canu. Radio Canu vous invite à son traditionnel du punch du 1er mai pour vous dire merci. Et oui, merci grâce à toi, public, et grâce à toi, auditeur. L'association a acheté son local l'année dernière. Autant dire qu'on se met bien. Et malgré les multiples attaques de flics ou de fachos qu'a subi la radio toute l'année, on est toujours là. Vous avez dû suivre un petit peu toutes ces attaques. Rendez-vous donc place Satonnet après la manifestation intersyndicale. En gros, on va partir de Bellecour, on va continuer en cortège jusqu'à la place Satonnet. Amener de quoi manger, boire et faire de la musique, c'est Radio Canu qui paye le punch.
Et donc, on se quitte en musique, des fois que pour le 1er mai, ça puisse donner des idées. Et d'ici là, paniquez pas, mais...
Niquez tout. Une concierge lui met tout le faux quartier. Le président fêlait en dame l'Elysée. Trois intervention alors qu'elle fait leur directeur. Une tribune bonne sœur, incendie de sa
Vous n'êtes pas sur France Inter.
Les pompiers en ont marre, c'est la crème aujourd'hui. Il y a le feu partout, c'est la fête des fous. Il y a le feu partout, vive la famille des fous.